Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Alors, il y a tout juste 3 jours, Emmanuel Macron a été investi pour un second mandat à l'issue d'un scrutin marqué par une forte abstention et à l'issue d'une campagne courte et relativement pauvre en débat d'idées. Au second tour, le 24 avril, il a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, 58%, mais moins de 40% des inscrits. Il semble aussi qu'un grand nombre d'électeurs aient voté non pas pour Emmanuel Macron, mais contre Marine Le Pen. Immédiatement, des voix se sont élevées visant à remettre en cause la légitimité de son élection, ou au moins sa légitimité à appliquer son programme. Mais la démocratie est fondée sur la loi de la majorité associée au respect de la minorité. Que peut-il advenir si ce principe est remis en cause? D'où les gouvernants tirent-ils leur légitimité? On va tenter de répondre à ces questions ce soir à l'occasion d'un nouveau rendez-vous des mardis d'éthique publique du Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, organisé en partenariat avec RCF, La Croix et la revue Études. Alors je précise que cet événement est retransmis en direct sur la chaîne YouTube du Centre Sèvres et sur le site de La Croix. Je vais animer ce débat avec Jean-Luc Poutier et avec François Huvé. Jean-Luc, je vous passe la parole. Je vous laisse le soin de présenter les données de la question qui va nous animer ce soir.
Ça ne marche pas. Allô? Oui. Le 10 avril dernier, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 27,85% des suffrages exprimés, ce qui représentait 20,07% des électeurs inscrits, compte tenu d'un taux d'abstention de 28,01%. Au second tour, comme en 2017, Emmanuel Macron l'a emporté sur la candidate d'extrême droite, Séverin Husson vient de le rappeler, avec 58,55% des suffrages exprimés, soit 38,5% des inscrits. Et comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour, s'est aussitôt appuyé sur ces nombres pour mettre en cause la légitimité du président de la République réélu. Il a dépeint Emmanuel Macron comme le président le plus mal élu de la Ve République, tout en prétendant se faire élire lui-même Premier ministre à l'occasion des élections législatives à venir. L'instrumentalisation des résultats électoraux par Jean-Luc Mélenchon ne fait pas illusion. Néanmoins, un problème réel se pose. En 2002, 2017 et 2022, face à la famille Le Pen, le choix des électeurs au second tour se serait fait, le conditionnel reste de mise, le choix donc se serait fait davantage par défaut que par adhésion, ce qui affaiblirait la légitimité à gouverner de celui qui a été élu. Cela a conduit certains essayistes à distinguer diverses formes de légitimité démocratique, opposant à la légitimité des urnes, au lieu de l'y associer, une légitimité substantielle ou d'exercice. Dès lors, je cite Pierre Rosanvallon, dès lors, la volonté générale n'est pas simplement exprimée par le moment électoral, pense Pierre Rosanvallon, pour une raison simple. Le moment électoral, je cite toujours, ne met en place qu'un pouvoir des majorités et la démocratie tout entière repose sur cette fiction que les majorités représentent la totalité de la société, que les majorités représentent l'intérêt général, alors qu'elles n'expriment de fait qu'un intérêt limité. Il faut donc avoir, concluait Pierre Rosanvallon, des formes de représentation de l'intérêt général, des formes de la volonté générale qui soient plus larges que celles de l'élection. Et voici comment, sous une forme en apparence théorisée, se trouve en fait légitimée la contestation du vote par des mouvements populistes auxquels Dominique Régnier a consacré un ouvrage de référence, des mouvements populistes radicaux, qu'ils se situent à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Comment tisser le lien entre le vote et l'expression de la volonté générale afin d'assurer la légitimité des gouvernants? La question est aussi vieille que Jean-Jacques Rousseau, au moins, et elle nous réunit à nouveau ce soir.
Pour répondre à ces questions, on a deux invités ce soir. Je vous présente à ma gauche David Jayes. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes enseignant à Sciences Po, essayiste. Vous êtes auteur de Slow Democracy, qui a un prix étudiant du livre politique publié en 2019. et plus récemment Le nouveau modèle français aux éditions Allary. Merci d'être avec nous. Dominique Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous avez publié nombreux ouvrages, récemment Le 21e siècle du christianisme au CERF. Merci également d'être là. On va commencer avec vous, Dominique Régnier, peut-être par une question un peu générale. On l'a dit dans cette introduction, on fait le reproche, ou certains font le reproche à Emmanuel Macron d'être mal élu. C'est pas le plus mal élu. Georges Pompidou, il me semble, au regard des suffrages exprimés, avait été un peu plus mal élu. Mais bon, on lui fait ce reproche-là. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est de nature à remettre en cause sa légitimité?
Alors, merci pour cette invitation à discuter ici avec vous. Je pense qu'il faut distinguer deux registres de discussion. Alors, on a du mal à les distinguer dans le débat public. Je m'aperçois de cela, c'est vraiment devenu très compliqué. Ce que vous dites en tant qu'analyste est écouté comme si c'était un propos politique. Il faut distinguer les deux registres. Les deux sont légitimes, hein, simplement il ne faut pas les confondre. Et il me paraît extrêmement préoccupant et significatif de l'époque de voir des responsables politiques remettre en cause la légitimité de la personne qui est élue. Ça me paraît préoccupant eu égard aux principes qui fondent notre système politique et aux procédures qui en organisent l'expression. Il y avait 12 candidats, il y a eu 2 tours, vous avez tous comme moi suivi la campagne pour l'élection présidentielle. C'est une campagne qui s'est déroulée sur le fond d'une crise internationale épouvantable. Et on ne peut pas dire que ce soit une campagne qui nous ait sur le fond passionné et que beaucoup de grandes idées aient été opposées les unes aux autres. Mais enfin, les 49 millions quasiment de Français inscrits sur les listes électorales ont pu voter ou ne pas voter, ont pu choisir les candidats pour le second tour et finalement le titulaire de la charge. Alors il est vrai qu'il y avait une difficulté au second tour. On peut, comme Jean-Luc Poutier l'a dit, en 2002, en 2017 déjà, c'est un second tour quasiment sans choix en réalité, où la question pour beaucoup d'électeurs n'était pas de savoir pour qui ils allaient voter, ni même si tel ou tel programme était plus intéressant que tel autre. Il y avait une sorte de contrainte, mais qui joue de moins en moins. Il faut remarquer ça. Si vous êtes familier, ça a déjà été utilisé, donc je me permets de le faire, mais si vous regardez par rapport aux électeurs inscrits, ce qui permet de prendre en compte l'abstention, les votes blancs, Jacques Chirac, en 2002, a été élu au second tour face à Jean-Marie Le Pen avec 60% des inscrits. En 2017, Emmanuel Macron est élu avec 43 et quelques face à Marine Le Pen. Et cette fois-ci, 38 et quelques. Donc il y a clairement, dans des situations qui sont parfaitement comparables, en 20 ans d'ailleurs, hein, parfaitement comparables, on voit bien qu'il y a une adhésion de moins en moins grande, y compris à cette espèce d'obligation de second tour, qui fait que, raisonnablement, on ne veut pas confier le pouvoir à Marine Le Pen. Il n'empêche que le pouvoir qui émane de cette procédure respectée, les élections en France n'ont pas été truquées, nous oblige à reconnaître la légitimité du pouvoir. Ça, c'est une analyse, je dirais, institutionnelle et politique. Et puis, quand on fait une analyse politologique, on ne peut pas ne pas voir cette sorte de délitement du corps électoral français, de son comportement. Ici, on signale, on insiste, les difficultés pour élire un président au second tour avec un nombre d'électeurs inscrits qui serait quand même significatif. Bon, ça faiblit évidemment d'élection en élection. Il y a une courbe que je renseigne. Je vous en ferai grâce. De toute façon, c'est très simple, ça monte. Hein. C'est-à-dire que quand on fait un total calculé aux inscrits des électeurs à la présidentielle, les électeurs qui s'abstiennent, qui votent blanc, ou qui votent pour ce que j'appelle, moi, un candidat anti-système, à gauche ou à droite, en 2022, au premier tour, on est arrivé à 68% des électeurs inscrits. 68% des électeurs inscrits qui soit n'ont pas à voter, soit ont voté blanc, soit ont voté pour une candidature protestataire. Alors ceux qui ne vont pas voter, je ne vais pas être long là-dessus, ceux qui s'abstiennent ne s'abstiennent pas toujours pour protester contre le système. Il y a d'autres raisons de s'abstenir. Hein. La moyenne de l'abstention en France depuis 1965 à la présidentielle, c'est 20%, en incluant le résultat de 2022, qui était un record de premier tour, plus de 26%. Donc il y a quand même une abstention qui est toujours un peu là, et il faut plutôt regarder sur les variations. Mais enfin, on ne peut pas savoir exactement. C'est difficile de savoir pourquoi les gens s'abstiennent comme cela, et on ne peut pas tout ramener à la protestation. Mais il n'en demeure pas moins que, terme à terme, c'est une dégradation, et quelque chose se passe autour de cette élection qui est clé, comme nous le savons tous, et qui détermine un cycle électoral, qui va déterminer notamment les législatives qui vont avoir lieu, qui donne un pouvoir considérable d'acteurs politiques, hein, puisque c'est un autre aspect de savoir si ça donne un pouvoir considérable de faire des choses, ça je suis moins sûr, mais ça donne un pouvoir considérable comme acteur politique. Et peut-être, alors je ne veux pas être trop long, hein, pour ne pas prendre trop de temps sur ce propos préliminaire, mais peut-être quand même une remarque ici, qui peut être un élément de la réflexion qu'on doit avoir ensemble aujourd'hui, une sorte de paradoxe problématique entre l'extraordinaire promesse que contient cette élection. Il y a peu de systèmes démocratiques dans le monde qui donnent ainsi la possibilité à une personne d'être élue directement par tout un peuple. C'est très rare, avec beaucoup de pouvoir. Donc il y a cette espèce de promesse. C'est notre président, nous l'avons voulu, donc il va se passer quelque chose. Et de l'autre côté, cette sorte de déception qui suit, de façon répétée, sur le peu qui se passe. Chacun a sa propre appréciation hein, sur le peu qui se passe et sur sa satisfaction. Mais ce qui est assez général, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose, on n'est pas satisfait, souvent pour des raisons différentes, voire contradictoires. Et donc c'est une sorte de blessure, peut-être même parfois d'humiliation, à la puissance du souverain qu'est le peuple, qui s'exprime régulièrement et jamais ne parvient à voir sa volonté s'accomplir.
Merci beaucoup. Je voudrais, David Jess, que vous rebondissiez sur la fin de ce qu'a dit Dominique Régnier. On a cité beaucoup de chiffres. Il y a celui qu'il a cité des 68% de si on fait la somme des blancs plus abstention plus vote protestataire, ce qui fait que il a une légitimité revendiquée qui n'est pas tout à fait égale à la légitimité qu'il a reçue effectivement dans les urnes. Donc, ce que je voudrais que vous nous disiez, c'est est-ce que cet état de fait peut lui poser un problème dans l'exercice du pouvoir, vous qui êtes ou qui avez été haut fonctionnaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des handicaps ou pas que ça peut créer dans le quinquennat qui s'ouvre?
Alors merci pour votre invitation. D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec 90% de ce qu'a dit Dominique, mais je relativiserai un peu ce chiffre de 68% parce qu'en fait, il me semble qu'il amalgame des votes qui sont assez hétérogènes. Peut-être pour la première fois dans cette élection de 2022, on a eu des comportements massifs de vote stratégique, ce qu'on appelle de vote stratégique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vote pas pour un candidat de cœur ou pour un candidat de choix, mais on vote pour éliminer d'autres candidats qui paraissent plus dangereux. Alors, ces comportements de vote stratégique, c'est un classique de second tour, puisque au second tour, vous connaissez l'adage, on élimine. Mais c'est la première fois qu'on observe aussi massivement dans les enquêtes électorales un comportement stratégique dès le premier tour. Et ce comportement stratégique s'est porté sur les trois candidats qui sont arrivés en tête. C'est-à-dire, et on l'a vu dans les sondages, quand on regarde l'évolution des sondages entre le mois de mars et le mois d'avril, on a vu qu'il y avait une sorte d'agglutinement des électeurs autour de trois pôles qui leur semble le moins antipathique ou en tout cas qui leur semble le moins incompatible avec leurs préférences personnelles.
Ce qui, par parenthèse, pose une question sur le rôle des sondages et le rôle des journaux, l'utilisation qu'ils font des sondages.
Oui, mais bon, ça fait 20-25 ans qu'on est abreuvé de sondages et on n'avait jamais constaté un tel niveau de vote stratégique au premier tour. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment que on avait en fait trois candidatures susceptibles d'accéder au second tour. Et les électeurs sont allés se porter massivement sur celle de ces candidatures qui permettent, vous voyez, c'est de la théorie des jeux quasiment, qui permettait en fait d'éviter le candidat le plus antipathique pour eux d'accéder au second tour. Donc on a des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron sans forcément se reconnaître immédiatement dans son programme de premier tour parce qu'ils étaient soucieux de lui donner un socle important de premier tour dans l'hypothèse quasi certaine d'un second tour face à Marine Le Pen. On a des électeurs, et ça c'est assez nouveau, il faudrait en tout cas le quantifier en sociologie électorale par rapport à 2017, des électeurs qui ont voté Marine Le Pen par vote utile contre Emmanuel Macron, et ce dès le premier tour, parce qu'ils voulaient lui donner un très bon socle de premier tour. Et fait nouveau encore, on a des électeurs pas du tout mélenchonistes, y compris des sociodémocrates bontins, qui ont voté pour Mélenchon au premier tour parce qu'ils ne voulaient pas renouveler l'affiche de 2017 et ils préféraient un second tour Macron-Mélenchon à un second tour Macron-Le Pen. Ce qui d'ailleurs, par parenthèse, Mélenchon avait fait un score considérable en 2017, mais il me semble que ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques électorales. En un sens, Mélenchon fait un score d'adhésion en 2017 qui est plus puissant que le score qu'il fait cette année. Le score qu'il fait cette année est dû pour 40% à peu près, enfin en tout cas c'est les estimations, mais il faudrait affiner hein, par des enquêtes beaucoup plus détaillées. 40% de son score de 2022, c'est du vote utile. Donc moi je suis un tout petit peu gêné par ce chiffre effectivement de 68% de vote anti-système, parce qu'en fait il me paraît amalgamer un peu des choux et des carottes. Après, ce que vous dites sur la question de la légitimité, moi je pense que ça renvoie plutôt à la question de la signification aujourd'hui de la Ve République. C'est-à-dire que la Ve République, elle a été créée dans un contexte particulier qui était celui de la guerre d'Algérie sur laquelle s'est fracassée la IVe République. Elle s'est faite dans le contexte du retour aux affaires du général de Gaulle qui n'avait pas démordu de son discours de Bayeux finalement sur la stabilité des institutions, sur le président comme un homme de la nation, sur la nécessité de s'extirper du régime des partis. Et donc les premières années de la Ve République, y compris l'inflexion de 1962 avec le suffrage universel direct, elles ont entièrement été bâties autour de la légitimité de l'aura historique du général de Gaulle. C'est-à-dire que parce qu'il y avait un personnage, comme disait René Coty, qui était le plus illustre des Français, qui avait une aura surplombante, il y avait cette rencontre entre un homme et une nation. Et la mythologie a fonctionné à plein. La question qu'il faut se poser, c'est au fond, pourquoi la Ve République, qui fonctionne sur une mythologie providentielle, a aussi bien fonctionné pendant aussi longtemps, même après la disparition du général de Gaulle. C'est ça le vrai mystère. Et ce mystère, il trouve une réponse très simple. C'est que une fois que l'aura historique du général de Gaulle s'est envolée, la Ve République s'est trouvée une seconde jeunesse dans le bipartisme. C'est-à-dire qu'il y avait deux grands partis, comme dans toutes les démocraties occidentales, il y a des travaux de Pierre Martin qui sont intéressants sur ce sujet, un grand parti conservateur, un grand parti social-démocrate, ces partis totalisaient des voix de l'ordre de 35 à 40% aux élections, chacun. Et donc, l'élection présidentielle était vraiment le moment de la bascule, en quelque sorte. C'est-à-dire, un camp essayait de gagner en rassemblant le plus largement possible face à l'autre. Et l'élection de François Mitterrand, en 1980, loin de signer la fin de la Ve République, alors même qu'il avait dénoncé le coup d'État permanent, elle a marqué sa normalisation et son entrée dans une seconde phase, celle du bipartisme. Et de ce point de vue-là, l'élection présidentielle était un moment d'alternance, ou en tout cas un moment où les deux morceaux de France essayaient de rassembler le plus largement pour l'emporter sur l'autre. Le problème, me semble-t-il, c'est que nous sommes entrés depuis, moi je date ça de 2002, dans une crise systémique. C'est-à-dire qu'on a un émiettement et une polarisation de la vie politique française. Et ce qui fait la spécificité française, d'ailleurs, c'est qu'on a les deux en même temps. Il y a des modèles en sciences politiques qui montrent que on a de l'émiettement dans certaines sociétés, c'est le cas de l'Allemagne par exemple, où on voit que la vie politique a longtemps été aussi bipartisane, aujourd'hui se structure autour de 4-5 formations politiques. On a de la polarisation aux États-Unis très forte, avec deux morceaux d'Amérique qui ont des valeurs opposées et presque inconciliables. On le voit en ce moment avec les débats terribles sur la fuite de presse autour d'une possible décision de la Cour suprême qui reviendrait sur le fameux arrêt Roe versus Wade qui autorisait l'avortement, Urbi et Orbi, si j'ose dire. La particularité de la France, c'est qu'on a une polarisation très forte, parce que tout est centralisé par l'élection présidentielle, et en même temps, on a un émiettement politique. Et il me semble que la clé de compréhension de la crise dont parlait Dominique tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'on a des présidents qui se retrouvent élus par des socles électoraux de plus en plus minces à cause de cet émiettement, mais qui jouissent de tous les attributs du pouvoir et du gouvernement, comme et même plus encore. Et le paradoxe, c'est que c'est même plus encore que dans les deux périodes précédentes. Pourquoi ? Parce que depuis 2002, nous avons le quinquennat et l'inversion du calendrier.
Alors, justement, je voudrais qu'on creuse un petit peu après les réformes qui pourraient être menées pour essayer de résoudre un peu cette question de la légitimité. Mais restons sur l'analyse historique. Une seconde, si vous voulez bien, Dominique Régnier. Est-ce que c'est le bipartisme qui a fait que la Ve République, pour le dire avec mes mots, a survécu au général de Gaulle, en gros, par rapport à ce que disait David Jayce, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui ont fait que ça a survécu et qui fait que nous sommes dans la situation d'aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la fin de ce bipartisme, ou est-ce que ce sont à la fois l'avènement du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral entre les législatives?
Non, c'est vraiment, je trouve, une question très, très importante qui permet d'ailleurs d'avoir des lectures différentes de la même réalité. Voilà, on espère que ça sert la réflexion, la compréhension. Moi, j'attribue le bon fonctionnement de la Cinquième à la bonne démographie française de l'époque, au taux de croissance, un déséquilibre moins marqué des finances publiques et des budgets sociaux, à un rapport beaucoup plus favorable à la science, à l'innovation, à une peur moins grande du monde, enfin toute une série de facteurs de type sociologique, psychologique aussi, bien sûr. Et je crois que dans ce contexte nouveau, la France des années 90 et après, où tout s'est pratiquement inversé, c'est très impressionnant de voir ça, les dirigeants, plutôt que de s'interroger, ça me frappe beaucoup par rapport au sujet qui nous occupe, plutôt que de s'interroger sur leur propre responsabilité, ont trouvé que c'était une bonne idée de mettre en cause les institutions. C'est une idée qui est plus facile à manier quand on est au pouvoir, parce que vous dites qu'il y aurait des réformes à faire, elles ne sont pas faciles à faire, on ne va pas y arriver à cause des institutions. Moi, je prétends qu'aucune institution actuelle, aucune procédure actuelle ne nous empêche de faire les réformes que nous jugeons nécessaires. On le voit d'ailleurs au fait que, je veux dire, cette espèce de cette façon de déplacer la responsabilité vers les institutions, ça s'est vu à ce qui a été cité par Séverin Husson à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de panique institutionnelle, et tout d'un coup on s'est mis à supprimer le septennat. J'ai un souvenir très précis, moi, de ce débat, où l'on nous disait comme argument que le quinquennat c'était un rythme plus démocratique. Une espèce de notion comme ça de rythme démocratique, un peu curieuse. Je me disais pourquoi pas au fond un mandat d'un an. Il y a beaucoup de prétendants, comme vous le savez, à la présidentielle. Parfois, je me dis qu'il faudrait un mandat d'un mois pour satisfaire toutes les vocations qui s'expriment. Mais au fond, on ne nous a pas vraiment bien dit pourquoi 5 ans et pas 7. Alors, il y avait la question de la cohabitation. On a inversé le calendrier, on a touché à ça. En 2008, on a créé cette règle qui est l'impossibilité d'être candidat une troisième fois à sa réélection. Il y a de bonnes raisons de faire ça, mais on pourrait aussi laisser les électeurs en décider. Dans un pays ouvert, libre, ça peut être aussi un choix des électeurs. On est aujourd'hui, je le crois, je le crains, reparti dans un cycle. C'est la faute aux institutions, il va falloir fonctionner autrement pour que ça marche mieux. Et je me dis, mais si par exemple vous pensez en tant que gouvernant qu'il faut reculer l'âge de départ à la retraite, c'est un sujet qui se discute. ne sais pas ça qu'on va discuter ce soir. De toute façon, on pourrait avoir des points de vue convergents ou différents, mais ce n'est pas l'objet. Mais vous avez, en tant que gouvernant, une préférence. Vous dites qu'il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Qu'est-ce qui vous manque pour faire ça? Rien. Si vous avez la majorité parlementaire, bien sûr, hein, faut respecter la Constitution. Ben, vous avez une majorité, vous avez des partenaires sociaux, vous discutez. Si c'est une conviction et que vous l'aviez indiqué pendant la campagne, vous l'appliquez. Il y aura des mécontentements, il y aura au terme du mandat un bilan sur la pertinence de votre action, vous serez comptable. Alors bon, rien n'interdit de réformer. Il y a toute une série de réformes qui ne sont pas empêchées par cela. Même s'il y a des décisions qui sont prises de manière probablement maladroite et qui peuvent susciter des oppositions, qui surprennent l'exécutif, je pense évidemment à la taxe carbone aux 80 km/h, mais qui ont été décidées rapidement depuis Paris d'une façon assez descendante, comme toujours, comme souvent en France, avec cet État très centralisé, très parisianisé, très descendant, très sûr de sa connaissance. De son savoir, et qui peut comme ça expliquer dans tout le pays qu'il faut rouler à 80 km/h et pas 90 sur les routes de France. Et les gens disent, mais enfin, vous n'êtes pas sur mes routes, je ne comprends pas pourquoi vous voulez ralentir ma vitesse sans ralentir celle des camions, par ailleurs. Donc, du coup, il y a un problème pour les doubler, etc. Donc, ces éléments-là ne sont pas liés aux institutions. Ce sont des défauts politiques. Et donc, je ne vois pas bien. Sinon, le fait de transférer sur le dysfonctionnement supposé des institutions, la raison qui explique nos difficultés actuelles. Nos difficultés, elles sont profondes, historiques. C'est aussi lié à la recomposition du monde, évidemment. Il se passe tellement de choses qui montrent que notre place ne sera plus la même, etc., etc. Tout n'est pas perdu, bien sûr, mais notre place ne sera plus la même. Il est certainement difficile de gouverner, mais enfin, ceux qui gouvernent sont en général ceux qui ont voulu gouverner. Il ne faut pas oublier ça. Hein. En général, ils l'ont voulu ardemment. Et effectivement, c'est difficile. Mais je trouve que c'est une sorte de fuite. Ça, c'est un élément. Bon, après tout, ça, c'est une considération. Mais plus grave de mon point de vue, cela revient, on en disait un mot tout à l'heure à propos d'un autre sujet, moins dramatique, mais qu'il est finalement tout autant à sa manière. Nous prenons l'habitude de fragiliser les institutions dans un monde déstabilisé, dans une époque trouble. Et j'ai envie de dire, attention, c'est plutôt le moment où il faut consolider ce qui existe, que l'on puisse s'accrocher à quelque chose dans un monde où nous perdons tous nos repères, où tout est renégocié, tout est bouleversé, et que l'on puisse s'entendre, et notamment, et je termine par là, et notamment sur la centralité de l'élection au suffrage universel. Que ce soit pour le chef de l'État ou que ce soit pour les élections législatives et toutes les élections. Et ne pas commencer, ce que je vois et qui m'effraie en réalité, à y substituer des commissions, des conventions, des échantillons dont je comprends et je partage l'utilité lorsqu'il s'agit de mieux comprendre, d'informer ou d'inspirer le législateur élu, mais surtout pas de s'y substituer. Il ne faudrait pas que le terme de notre histoire aujourd'hui, ce soit de remplacer des élus par des citoyens tirés au sort qui délibéreraient à quelques-uns, décideraient pour tous, car là, au passage, nous aurions tout simplement renoncé à l'élection.
David Jez, est-ce que vous partagez ce constat sur le poids que les élus font porter aux institutions et l'espèce de bouc émissaire? Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais...
Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que vient de dire Dominique. La première, c'est que je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut toucher aux institutions que d'une main tremblante. Et les réformes institutionnelles qui ont été énumérées, pour moi, sont toutes des échecs. Le quinquennat, l'inversion du calendrier, la limitation à deux mandats. Bon, c'est vrai qu'après tout, pourquoi, si on veut en faire quatre ou cinq et que les électeurs sont d'accord, on peut avoir des très grands et des très bons dirigeants. Plus encore préoccupant, le non-cumul des mandats.
Oui.
C'est-à-dire que ça, c'est l'exemple type d'une réforme qui a été votée L'enfer est pavé de bonnes intentions, si j'ose dire. Je dis ça au centre Sèvres, mais je veux dire, c'était plein d'intentions louables. C'était de permettre aux élus de se dédier pleinement à leurs tâches. Il est vrai qu'il est difficile d'être à la fois maire d'une ville comme Lyon et sénateur ou député. Il y a forcément un des deux jobs qu'on fait pas correctement. Mais enfin, entre les abus, avec parfois des cumuls, des gens qui cumulaient 5 ou 6 fonctions comme ça, éminentes, et la règle quasi-soviétique qu'on a imposée de non-cumul des mandats, a eu pour effet en fait d'aggraver encore plus un défaut de fabrication qui s'est avéré après la réforme du quinquennat et de l'inversion du calendrier, c'est-à-dire de déconnecter les parlementaires de tout ancrage et de toute influence sur le circuit de la décision. Parce que ils n'ont pas de lien avec un mandat local et donc avec ce qu'on appelle en anglais une constituency, c'est-à-dire un socle d'électeurs, de citoyens dans un terroir ou dans un territoire. Donc, il se trouve que les institutions de la 5e, telles que Debré et De Gaulle les avaient pensées, étaient assez astucieuses. Elles combinaient stabilité, vitalité parlementaire et donc vitalité démocratique, autorité, si j'ose dire, elles sont particulièrement bienvenues dans le monde de crise que décrit Dominique, parce qu'elles permettent de gérer le temps long, de prendre des décisions rapidement. C'est intéressant, un régime qui permet à la fois de planifier et de réagir rapidement. C'est rare. Elle maintenait avant la réforme du quinquennat une certaine place au Parlement. Moi, je bondis quand on dit que la 5e République est un régime présidentiel. C'est pas un régime présidentiel, c'est au maximum un régime semi-présidentiel. Puisqu'il y a un Premier ministre et que ce Premier ministre est responsable devant le Parlement. Et quand on a eu des cohabitations, on a bien vu qui détenait la réalité du pouvoir hors domaine réservé. C'est la majorité au Parlement et le gouvernement qui en émane.
Ce qu'il y a, c'est qu'avec l'inversion du calendrier, on a supprimé l'espèce de respiration démocratique de mi-mandat avec l'élection intermédiaire. Et donc le président est élu pour 5 ans, parfois élu ou mal élu. Ma question, c'est est-ce qu'on peut considérer encore qu'il tire ses légitimités pour 5 ans d'une élection sans passage intermédiaire devant les électeurs? Ou est-ce qu'il faut qu'il aille reconquérir périodiquement sa légitimité par des référendums, par le recours à la démocratie directe, par le recours à la démocratie participative?
Sur les élections à mi-mandat, l'hypothèse peut paraître séduisante. Après, regardez aux États-Unis où c'est systématisé, ça conduit à des blocages absolus. Je veux dire, Biden, par exemple, il peut pas passer son plan d'investissement vert parce que on a un blocage politique qui est lié à ce système institutionnel. Mais juste pour terminer sur ce que je disais, il me semble que du coup, les raisons qui ont guidé les réformes institutionnelles depuis 2002 étaient toutes des mauvaises raisons. C'était soit des raisons de confort, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui a dicté le quinquennat? C'était le fait que Chirac et Jospin n'avaient pas supporté la cohabitation. Donc c'est des raisons de confort. Est-ce que la cohabitation vue des Français était si insupportable que ça? Est-ce que les gouvernements de cohabitation, quelles que soient les options politiques de chacun, que ce soit celui de M. Chirac, celui de M. Balladur ou même celui de M. Jospin, étaient des si mauvais gouvernements que ça? Est-ce que le pays s'est trouvé dans une situation de blocage politique? Je ne crois pas. Ce sont des moments, au contraire, où il y a eu beaucoup de réformes et des réformes vigoureuses. Rappelez-vous les privatisations opérées par M. Chirac ou les 35 heures de M. Jospin. Ce sont des options politiques. Donc ce système de cohabitation fonctionnait et il avait même un mérite. C'est qu'il apaisait le pays parce qu'au fond, tout le monde se sentait représenté. Il y avait un président qui appartenait à un camp, un gouvernement qui était l'émanation d'une majorité, et tout ça fonctionnait pas si mal. Donc on a fait des erreurs pour des raisons de confort, ou alors, et c'est encore pire, pour des raisons morales, mais qui se sont avérées contre-productives, qui ont produit l'effet inverse de ce qu'on escomptait. L'émiettement politique dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas... il n'est pas une dynamique endogène, il est le résultat d'une évolution sociologique de la France. Cette France de la désindustrialisation, de la métropolisation, de la mondialisation, de l'immigration, de l'augmentation exponentielle du nombre de diplômés du supérieur, de aussi un facteur très important pour comprendre l'émiettement politique, de la divergence entre un secteur productif et un secteur public, qui ont, pendant les 30 Glorieuses, évolué à peu près au même rythme et selon les mêmes standards. Et l'écart s'est énormément creusé. C'est-à-dire qu'on a un secteur privé où les rémunérations, en tout cas dans les grandes entreprises, se sont plutôt envolées, mais qui est plus compétitif, concurrentiel, risqué, etc. Et un secteur public, à l'inverse, où les rémunérations se sont plus ou moins tassées, mais qui a beaucoup recruté et qui est abrité. Et donc ça crée tout ça, tous ces phénomènes qu'on n'a pas le temps de détailler, métropolisation, divergence publique-privée, mondialisation, immigration, c'est une sorte de gigantesque cyclotron qui accélère la divergence des représentations politiques et donc, donc l'émiettement électoral qu'on constate. Donc l'enjeu, effectivement, il ne faut pas tomber dans le fétichisme des institutions, mais il faut trouver un équilibre institutionnel qui permette... Il faut que les institutions, en quelque sorte, les institutions ne vont pas réparer les fractures. C'est trop facile de faire porter sur les institutions la responsabilité des maux qu'on a soi-même provoqués ou qui sont le résultat d'évolutions historiques profondes. Mais il faut faire en sorte que ces institutions amortissent dans un moment d'extrême polarisation de la société. Alors, et aujourd'hui, il me semble qu'on est arrivé à un point extrême où les institutions aggravent les polarités et les fractures alors qu'elles devraient les amortir. Et donc pour moi, tout l'enjeu d'une réforme institutionnelle astucieuse, c'est de trouver les voies et les moyens de conserver ce qu'il y avait vraiment d'excellent dans l'épure de la Ve République, autorité, stabilité, réactivité, tout en se donnant les moyens de réduire les fractures qui aujourd'hui sont béantes.
Et donc, si poussons un tout petit peu le raisonnement, du coup, s'il y avait une mesure ou une réforme à mener, et je comprends bien qu'il faut les mener d'une main tremblante, vous avez dit, mais s'il y en avait une, du coup, à mener, ce serait laquelle?
Alors, en deux mots, mais ça, je l'ai proposé dans mon livre à l'automne, mais au fond, Dominique Reynier, je pense, ne sera pas en désaccord avec moi, parce que moi, je propose pas une 6e République, mais un retour à l'épure de la 5e. C'est-à-dire que je suis favorable à un retour du septennat. Je suis favorable. Du coup, septennat présidentiel, quinquennat législatif, mécaniquement, ça fait des élections intermédiaires. Je suis favorable aussi à ce qu'on regroupe les élections locales parce qu'il y a beaucoup trop d'élections locales. Les gens savent pas à quoi sert un département, une région, et ils sont amenés à voter pour les municipales, puis pour les départementales, les régionales. Donc les gens n'y comprennent plus rien. Il y a trop d'élections, ce qui du coup démotive et favorise l'abstention. Enfin, vous avez vu les taux d'abstention là aux dernières élections locales. Et puis, dernière proposition peut-être, je suis favorable à l'introduction d'une dose. Alors, tout est dans le dosage, justement, parce qu'on a vite fait de faire des conneries aussi sur ce volet-là. Mais d'une dose significative de proportionnelle à l'Assemblée nationale, parce que nous ne sommes plus effectivement en régime bipartisan et nous avons besoin d'avoir une représentation correcte des sensibilités, des familles de valeurs, des familles de pensées qui existent dans le pays. C'est pas normal. Moi, je suis un opposant féroce à Marine Le Pen, mais je trouve ça très étrange qu'une candidate qui fait 35-40% au second tour de l'élection présidentielle se retrouve avec 3 députés à l'Assemblée nationale.
Dominique Reynier, du coup, j'ai deux questions pour vous, la même que celle que j'ai posée à David Jay. S'il y avait une réforme à mener, ce serait laquelle? Et puis, je veux bien avoir aussi une réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure sur l'aspiration qu'on ressent, qui s'est exprimée, que les Gilets jaunes ont exprimé, l'aspiration d'une partie des citoyens à participer à la décision de manière plus fréquente que tous les 5 ans, comment on y répond? Encore une fois, la réponse, elle est d'autant plus compliquée que les élections intermédiaires n'existent plus.
Alors, sur la réforme, je suis pas... c'est pas une question simple pour moi, puisque je suis plutôt partisan de ne pas toucher. J'étais pas favorable au passage au quinquennat, mais je trouve pas raisonnable de dire qu'il faut revenir au septennat. Je dis arrêtons avec ce bricolage institutionnel, c'est devenu très périlleux. Alors si j'avais une réforme à défendre, ce serait l'introduction dans la Constitution, de façon très efficace, ça n'a jamais été fait, de la règle d'or, c'est-à-dire de l'interdiction pour la majorité de dépenser plus d'argent qu'il n'y a de ressources. Une interdiction absolue, c'est la règle d'or, hein, donc c'est ce qu'on soit aisément, et ça mettrait à l'abri les générations futures. Enfin, voilà. Donc ça me paraît, ça va être une... Je ne vois pas où est la liberté du législateur d'imputer aux générations futures une charge dont ils n'auront pas la responsabilité parce qu'on les aura oubliés. Donc je dirais ça, pour de la responsabilité chez les gouvernants. Et puis, sur la question de la participation, moi j'ai un désaccord avec cette évaluation. Je considère que les Français ne demandent pas à participer davantage. Je ne le crois pas. Je pense que les Français demandent plus d'efficacité de la part des gouvernants. Et je considère que c'est un mythe. Quand on fait une enquête d'opinion, la plus mauvaise des questions, enfin parmi toutes les mauvaises questions qu'on peut poser, mais la plus mauvaise des questions qu'on peut poser, je crois, c'est êtes-vous favorable à une généralisation du référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne, comme vous voulez ? Les gens répondent oui à 80%. Est-ce que vous voulez qu'on vous pose des questions ? Oui. C'est ça un peu l'idée. Mais même quand il s'agit d'élire son maire désormais, je parle du second tour de 2020, parce que le premier tour était Covid quand même, hein, mais le second tour, le 28 juin 2020, l'abstention sans précédent, même si le record précédent était de 2014, ce n'était pas à ce niveau-là, 2014, hein, avant tout ça, hein, mais c'était quand même, le record était battu en 2014. Donc il y a une tendance à ne pas aller voter au municipal, au départemental, au régional, et que le Covid n'explique pas entièrement, seulement pour partie. Même chose, moi j'ai fait des enquêtes là-dessus récemment pour savoir pour quelles raisons on n'avait pas voté à la présidentielle, et j'ai posé notamment l'item, est-ce que c'est parce que vous aviez peur du Covid ? C'est très marginal chez les abstentionnistes. Donc il y a une désaffiliation politique. Les électeurs qui ont leur raison ne se sentent plus concernés. On parle des fameux blocs Mélenchon, Le Pen, Macron, et puis on sait bien que le bloc le plus important, c'est l'abstention. Les gens qui n'y vont pas. Et si vous demandez aux élus locaux, vous faites des réunions de mi-mandat, vous faites des réunions d'information sur un projet d'aménagement d'un quartier, vous invitez la population, vous avez dû participer quand même à ces réunions-là vous-même. Moi j'y ai participé, comme citoyen. Il n'y a personne. C'est à peu près toujours les mêmes. Nous sommes une poignée. C'est vrai qu'on n'a pas potassé le dossier, honnêtement. Hein, donc on vient se faire expliquer ce qu'il est prévu de faire. On n'est pas sûr d'avoir le temps de faire beaucoup plus. Et on a la chance de pouvoir venir à cette heure-ci. Ce sont des modalités, y compris les délibérations qui sont organisées, sur lesquelles vous avez une tonne de travaux de sociologie. Et tenez-vous bien, les conclusions sont stupéfiantes. Les gens qui vont à ces réunions n'ont aucun rapport avec la moyenne des citoyens. Ils sont surdiplômés, ils ont le temps, ils ont le statut, ils ont la passion de la chose publique, ils ne sont pas trop loin de la réunion, ils ne s'occupent pas des enfants qui restent à la maison dont il faut faire les devoirs. Enfin, on connaît, il y a toute une série d'éléments. Et vous vous dites, mais en fait, c'est complètement biaisé par rapport au brave suffrage universel qui propose une égalité pure, voilà, une égalité entre les citoyens au moment où il faut produire une décision, qui permet dans les campagnes électorales, à travers la presse, les discussions, et peut-être que si on s'intéresse un peu plus, on peut aller écouter des meetings, on peut avoir des préférences qui nous amènent à être un peu plus engagés, mais enfin on peut aussi être très correctement informé au moment d'aller voter. On n'a pas de raison de ne pas être informé au moment d'aller voter aujourd'hui. Hein. L'école peut vous y aider, je veux dire, à vous intéresser à la vie civique, etc. Donc, en réalité, c'est une forme de dépression collective, une forme de désaffiliation, de désintérêt. La politique sort de nos vies, peut-être, ce qui pour les Français serait quand même un événement important. Il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais c'est, à mon avis, un contresens total, assez démagogique, flatteur, d'imaginer que les Français ont envie, le soir, arriver chez eux, de repartir pour participer à des réunions et délibérer. Quand ces réunions se déroulent, elles sont étudiées, ces réunions, par la sociologie. Hein, c'est toujours le même résultat. Il y a, si c'est représentatif, la plupart des personnes ne vont pas oser prendre la parole. Elles sont impressionnées, elles ne se sentent pas informées. Il y a des gens qui parlent bien, qui parlent fort. qui ont l'air de connaître, on ne va pas oser les contredire, etc. Enfin, il y a toute une série de mécanismes très connus hein, qui jouent et qui font qu'au fond, il s'y passe quelque chose qui est même inférieur à ce que peut être une assemblée d'élus. Parce qu'une assemblée d'élus, il y a quand même une forme d'égalité dans le fait que ce sont des élus qui se réunissent pour délibérer. Et donc, je dirais, je terminerai là-dessus, mais je dirais, attention que là aussi, cette idée que l'on agite comme cela, qui nous dit, on nous dit à nous, il y a parmi vous des gens très nombreux qui veulent participer. Et on pense toujours que le nombreux, c'est l'autre, en fait. Ceux qui veulent ils sont là, les gens qui veulent participer beaucoup, mais on ne les retrouvera pas dans les réunions qui seront organisées, même des réunions très simples sur la vie de mon quartier. Dans une ville de 60 000 habitants, une réunion de quartier organisée par un élu local, le maire, sur un sujet d'aménagement, vous avez 50 personnes qui viennent, 60, 70. Sur 60 000 habitants, sur 28 000 ou 30 000 inscrits, vous avez ça, 50, 60 000 personnes qui viennent. Et qui viennent une heure et quart, et qui ne viendront pas de façon récurrente. Donc c'est une c'est la fameuse différence entre Jean-Luc Boutier, il reconnaîtra des références communes. Bien sûr, pour nous qui avons ou qui enseignons à Sciences Po, mais c'est la liberté des anciens et la liberté des modernes. Les modernes veulent une liberté qui leur permet de choisir des gouvernants et de mener l'existence qui leur est chère. S'occuper des leurs, travailler, avoir des loisirs, avoir une vie à soi avec les siens, etc. Et il y a des personnes désignées pour exercer les activités de responsables politiques au niveau local, au niveau régional, au niveau national et européen. Donc, c'est impliquer dans la vie publique davantage les citoyens, c'est une idée qui déjà, dans la Grèce antique, posait problème, puisqu'il y avait, beaucoup, il y avait quand même 30 000 Athéniens qui étaient libres sur 800 000, qui étaient libres. Les 30 000, il fallait mettre en place des dispositifs de sanctions pour éviter l'abstention quand même. Hein. Ils n'avaient que ça à faire, hein, puisque les esclaves faisaient tout. Hein. Il fallait mettre des dispositifs pour signaler qu'ils n'étaient pas là. On mettait une cordelette avec de l'encre rouge, de la craie rouge, et ceux qui quittaient l'assemblée avaient de la craie rouge sur la toche. Donc on leur disait, vous devriez être là-bas et vous êtes ici. Donc il y avait des systèmes comme ça qui étaient mis en place, alors qu'on n'avait que ça à faire, hein, citoyens. Aujourd'hui, c'est encore plus difficile, évidemment, de participer, et je pense que le résultat serait pire.
Dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais qu'on aborde un peu le... Alors, allez-y, ouais. Je voudrais qu'on garde un tout petit peu de temps, okay, quand même, pour parler du mode de gouvernance, mais allez-y, ouais.
Je suis amicalement, mais totalement en désaccord.
J'imagine bien.
Avec ce qui vient d'être dit.
Parce que j'ai lu les livres de David James. Donc...
et moi, ceux de Dominique Régnier.
Je vois bien le désaccord.
Et Dominique Régnier faisait référence à Benjamin Constant en parlant de la liberté des anciens et des modernes. Benjamin Constant qui disait d'ailleurs, la démocratie suppose une dose d'apathie et de non-participation. Donc effectivement, l'idée qu'on va sélectionner des mandataires ou des délégataires qui vont s'occuper de nos affaires pendant que nous, on pourra vaquer à notre bonheur personnel. Tout ça est très beau. Et moi, je suis plutôt un lecteur et un disciple de Tocqueville. C'est-à-dire que je suis aussi libéral politiquement, mais je crois que si on entre dans des sociétés, et c'est un peu ce que deviennent nos sociétés, où il n'y a que des citoyens atomisés, comme dans un sac de patates, et des organisations toutes puissantes, à commencer par les États, mais aussi les GAFAM, etc., on entre en réalité dans des sociétés d'irresponsabilité généralisée. Et ce qu'il faut, c'est justement reconstituer tout un tissu de médiation qui permette de faire ce continuum démocratique et de rendre la société vivable. Alors Tocqueville parlait des associations, des syndicats, de toutes les médiations à l'intérieur de la société. Et évidemment, toutes les institutions. Et en réalité, si on fait la démocratie participative comme Dominique l'a décrit, c'est-à-dire effectivement dans des réunions publiques un peu ennuyeuses, où on entend des sermons, évidemment ça attirera toujours les mêmes, ça fonctionnera pas. Mais à mon avis, ça c'est pas un bon argument pour disqualifier le continuum démocratique que j'appelle pour ma part de mes voeux. Ça disqualifie les réunions publiques, ça disqualifie pas le continuum démocratique. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut inventer de nouvelles formes. Et ces nouvelles formes, à mon avis, elles sont axées autour de, et ce n'est pas un discours de gauchiste justement, elles sont axées autour de la réinvention de la responsabilité. C'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où l'État ne tient plus ses finances publiques, où les grandes entreprises ont perdu plus ou moins le sens du pays parce qu'elles considèrent que l'État dépensant trop, elles ont à se soucier de leurs profits et de leur délocalisation, etc. Dans une société où les citoyens sont de plus en plus des consommateurs, qui consomment y compris de la prestation politique, donc le suffrage devient un acte de consommation. Ça devient une espèce de comme on vote comme on va au supermarché, on consomme de la politique comme on consomme finalement des produits alimentaires. Et on a un épuisement de toutes ces médiations syndicales, associatives, de toute cette société civile organisée, comme on disait, ce terme a un peu vieilli. Et moi, je crois que si nous voulons nous en sortir, si nous voulons relever les très grands défis qui sont devant nous, la mondialisation, le changement climatique, il faut que nous resserrions les fils de la cohésion. Et pour ça, nous devons reconstituer une démocratie vivante et une démocratie continue. Et donc, ça ne veut pas dire diminuer l'importance du suffrage. La souveraineté du peuple exprimée dans le Parlement reste pour moi la clé de voûte de nos institutions. Mais je vous rappelle qu'après 1944, nous avons inventé un truc qui s'appelle la démocratie sociale. C'est-à-dire l'idée que les partenaires sociaux discutent de la répartition de la valeur dans l'entreprise, etc. Et que cette démocratie sociale, elle a été pensée par des personnalités très considérables, comme Alexandre Parodi, Pierre Larocque, etc. Et que juridiquement, elle s'est articulée à la démocratie représentative, à la souveraineté du peuple. Et elle a été pensée comme ancillaire à la démocratie représentative, mais elle a été très bien articulée. Vous voyez, par exemple, les modalités d'élaboration des dispositions issue de la négociation collective. D'abord, on négocie, on essaie de trouver un accord, et ensuite, le gouvernement se substitue. Moi, ce que je dis, c'est que nous devons d'abord revitaliser cette démocratie sociale, et nous devons la compléter d'une démocratie élargie à toutes les composantes de la société civile, que ce soit les citoyens en tant qu'individus, mais aussi les corps collectifs, parce que c'est le seul moyen de réengager les gens dans le bien commun et de redécouvrir le partage des responsabilités. Parce que si vous ne confrontez pas les citoyens aux contraintes budgétaires, aux contraintes juridiques, au fait qu'un arbitrage, ben c'est parfois choisir entre la moins mauvaise des options, c'est parfois prendre conscience en fait qu'il n'y a pas d'argent gratuit, que ça ne pousse pas dans les arbres. Vous voyez, tout un tas de choses comme ça qui aujourd'hui sont complètement évaporées, eh bien vous accélérez la société d'irresponsabilité généralisée dans laquelle nous sommes déjà. Et donc au nom de la responsabilité, je pense que nous devons... Et on sait à quoi ça mène, les sociétés d'irresponsabilité généralisée. Ça mène à des tyrannies douces. Donc au nom, justement, de ce sens des responsabilités, je pense que nous devons profondément réinventer nos formes démocratiques.
Alors ça tombe très bien, parce que c'était le point sur lequel je voulais vous interroger, cette nécessaire revitalisation de la démocratie sociale. Emmanuel Macron a dit qu'il avait conscience de tout ce dont on a parlé là et qu'il envisageait une autre méthode de gouvernement. Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder? Est-ce que voilà, on n'a plus beaucoup de temps, hein, mais, oui. mais qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Vers quelle direction il faudrait aller?
Alors tout ça c'est à l'invite d'une discussion. Hein. On ne faut pas qu'on ait l'air de savoir ce qu'il faut faire. Hein. On dit des choses, mais pour être cohérent avec la position que je défendais tout à l'heure, le constat, moi je dirais qu'il n'est pas nécessaire de toucher aux institutions. Par contre, il faut les utiliser toutes. Un des éléments clés, et ça sera sans doute très difficile pour Emmanuel Macron, qui n'a pas l'air d'être disposé à cela, mais c'est de décentraliser, c'est-à-dire d'investir, là je rejoins David, d'investir les élus locaux de responsabilités plus importantes. Et les élus locaux vont, avec leurs citoyens, entreprendre des discussions. Il y aura une vie démocratique. C'est ça qu'il faut faire. C'est cette vie sociale naturelle. Hein, naturelle. Il me paraît très malsain que l'État s'occupe d'organiser nos conversations et nos délibérations. Il vaut mieux que ce soit fait comme ça, de façon naturelle, sur des objets particuliers, que sont, par exemple, à l'échelle communale, des aménagements, etc. Il y a bien sûr la nécessité absolue de principes généraux, de lois nationales, ça va sans dire, d'un cadre commun. Les élus locaux aux différents niveaux. Il y a aussi, je ne reprendrai pas, je suis d'accord tout à fait avec ce que disait David Jay sur le problème du non-cumul des mandats, il y a toute une série, ça ce serait un objet intéressant, hein, il y a toute une série de décisions qui ont été prises qui rendent la vie des politiques véritablement impossible et qui font que peu à peu, nous n'avons plus autant de candidats, ni d'aussi bons, je crois, à ces fonctions, parce que c'est devenu dissuasif. Alors que nous devrions aider par simplement de la règle simplifiée, de la règle allégée. Nous devons aider les partis, les syndicats à fonctionner, et là aussi avec leurs auditoires, les citoyens qui viennent les voir, et d'ailleurs pousser un peu plus les partis à devoir les rencontrer. Vous savez que les partis politiques français, les Français à 80% ne veulent pas les partis. Ils ne les aiment pas, ils les soupçonnent de tout. Je vais très vite, mais les partis se sont tous cartélisés. Ils sont subventionnés à 100%, donc ils n'ont plus besoin d'aller chercher des électeurs, des militants, des donateurs, etc. Ils n'ont pas besoin d'être au contact de la société. Ils vivent dans cette espèce de système qu'ils ont édifié, qui est très particulier, qui les a en réalité ossifiés, alors qu'ils devraient être mis devant la nécessité de s'engager. Même chose pour les syndicats. Les syndicats devraient être invités à s'engager dans la société plutôt que de chercher à se contenter de la rente qui est versée. Rente n'est pas péjorative, c'est la situation dans laquelle ils se trouvent. J'ajouterai un point qui est, donc c'est la décentralisation, c'est les partis, c'est les syndicats. Le monde associatif dont parlait David Jazz est extrêmement important. Il est très vivant. Il est très vivant. Et il faut l'encourager à vivre. Il faut lui donner des marges. Il faut, par exemple, on peut fiscalement favoriser encore le don aux associations et aux fondations. Je suis directeur d'une fondation d'utilité publique. Je trouve incroyable les difficultés que l'on rencontre pour rassembler de l'argent. Enfin, et on pourrait tout de même, et je signale au passage, qu'il n'y a en France, contrairement à ce que pensent presque 99% des gens que je rencontre, il n'y a aucune incitation fiscale. Ça n'est pas vrai. Si vous donnez, vous sentez que vous donnez, il n'y a pas d'incitation. On vous propose juste d'en déporter une partie qui vient des impôts que vous allez payer. Mais l'autre partie, vous la donnez bien. On pourrait imaginer des systèmes différents. On a fait des propositions qui permettent aux Français de donner aux associations et fondations beaucoup plus qu'ils ne donnent aujourd'hui, ce qui leur donnerait à ces associations et fondations beaucoup plus de moyens pour agir dans la société. Donc on peut aller de ce côté-là. Et puis enfin, et là je fais une référence à l'Europe, il y a quand même des choses qui se passent, qui sont de bonnes nouvelles. Et je trouve que ce que fait l'Europe depuis quelque temps en matière de reprise de contrôle sur les big tech américaines, les GAFAM, Twitter, Facebook, etc., est quand même de bon augure. Il y a de grands plans qui se mettent en place. Peut-être seront-ils empêchés par des obstacles ou des lobbyistes puissants, mais enfin, ils ont au moins été en un temps record conçus et adoptés. Et dans ces plans, il y en a un, qui est le Digital Services Act, qui est un plan donc, pour contrôler la manière dont les grandes plateformes privées américaines régulent l'expression, la liberté d'opinion, la façon de parler, d'échanger, etc., ce qui est devenu évidemment majeur dans nos sociétés, le numérique. Et on est quand même en train d'obtenir, sous peine de sanctions absolument dissuasives, on est quand même en train d'obtenir que, pour le dire en un mot rapide, et sans doute un peu simple, mais il ne sera plus possible pour ces plateformes d'obliger à des formes d'échange qui sont interdites sur nos territoires, ou d'interdire des formes d'échange qui sont autorisées sur notre territoire. Donc cette espèce de mise en conformité est une bonne nouvelle, c'est une condition de possibilité d'une vie civique saine, puisque ces plateformes ont aujourd'hui, et nous sommes sur YouTube, ont aujourd'hui acquis un pouvoir extraordinairement important.
Merci beaucoup. C'est bien parce qu'on a deux visions complémentaires l'une de l'autre. On arrive au terme de ce débat. François EV, est-ce que vous voulez en tirer une conclusion ?
En tirer une conclusion serait bien ambitieux, mais il y a quand même quelques points qui me semblent ressortir rapidement. En tout cas, un constat effectivement de fatigue démocratique et de la nécessité de retrouver effectivement le sens de responsabilité. Je pense que ça, on partagera assez volontiers ce diagnostic. Alors, quels sont les moyens qu'on peut se donner ? On en a évoqué quelques-uns, et je crois qu'il y a vraiment, sans mettre en cause les institutions telles qu'elles fonctionnent plutôt bien, mais je crois qu'il y a vraiment un enjeu fort de trouver différents lieux, simplement en utilisant, ce qu'on a dit à l'instant, ce qui existe déjà, pour faire en sorte que nous nous sentions davantage responsables de la société, responsables les uns des autres, avec évidemment ce paradoxe qu'il y a peut-être un désir de participation, mais en même temps une faible participation, donc trouver peut-être les corps intermédiaires, les bonnes structures de débat, de délibération. Je pense qu'un des enjeux importants, une des difficultés que soulignait David Jay, c'est-à-dire ce mélange de d'émiettement et de polarisation qui fait que des lieux de débat deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Je pense qu'il y a aussi un enjeu, question qu'on pourrait peut-être développer encore plus si on a plus de temps, c'est comment trouver des lieux qui soient vraiment des lieux de délibération et de débat, et pas simplement de chambres d'enregistrement ou de conflits frontaux qui ne sont peu productifs. Voilà, je pense qu'il y a un enjeu certainement à développer autour de ça, ce que nous faisons dans quelques articles d'études. Je vous invite pour, en conclusion, à aller relire les derniers numéros d'études dans lesquels vous trouverez et quelques-uns à venir aussi, bien sûr, dans lesquels vous trouverez des éléments de pensée pour aller plus loin.
Merci beaucoup. Un grand, grand merci à vous, Dominique Régnier et David Jays. Je rappelle que ce débat sera diffusé la semaine prochaine sur les ondes de RCF. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, je change de casquette, je prends le relais pour la partie débat public. Donc là, cette partie n'est pas enregistrée. Enfin, si elle est enregistrée, elle ne sera pas diffusée. Donc, vous avez toute liberté pour poser des questions. L'habitude ici est de prendre les questions par deux ou par trois. Voilà, il y a déjà une main qui se lève vers la gauche. Deuxième question. Bah, écoutez, alors prenons, contrairement à la règle que je viens d'énoncer, vous devez savoir changer ses règles de temps en temps. prenons cette première question sur effectivement le monde de l'entreprise et sa gouvernance.
Les réflexions sur la démocratie économique en fait sont anciennes et elles sont consubstantielles des réflexions sur la démocratie sociale. Dans les années 44-45, il y a eu d'intenses réflexions dans les groupes issus de la résistance sur la façon de démocratiser l'entreprise. Alors évidemment, il y avait la vision extrême, c'était la vision quasiment conseilliste qui était défendue par les socialistes au moment des nationalisations de 44-45. C'était l'idée que les entreprises devraient être administrées par des conseils mélangeant des salariés et des usagers. Mais il y avait aussi une vision social-démocrate, il y avait une vision gaulliste, il y avait une vision chrétienne-démocrate. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça a abouti à la création de la sécurité sociale. Et la création de la sécurité sociale au départ, c'était vraiment l'idée de démocratiser le monde du travail et le monde économique. Et par exemple, les caisses, au nom du paritarisme, étaient administrées par des représentants du patronat et des syndicats, élus par les salariés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'élections. Il y a très peu d'élections au conseil d'administration des caisses. Vous avez, je crois, dans un certain nombre de régimes, depuis 1987, il n'y a pas eu d'élection. Et la sécurité sociale, d'une manière générale, même si elle continue facialement d'être gérée de manière paritaire, en fait, a été prise en charge par une bureaucratie qui, elle, ne rend de compte à personne. Et ce qui est intéressant, c'est que il faudrait qu'on arrive à repenser l'entreprise comme un lieu démocratique. Parce que les médiations dont on parlait tout à l'heure sont pour beaucoup épuisées, pour beaucoup fatiguées. Et s'il y a bien un lieu qui est un lieu vivant, un lieu de communauté, c'est l'entreprise. Mais ça suppose, à mon avis, de changer de conception du capitalisme. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui a été écrit par un ancien commissaire au plan qui s'appelait Michel Albert, qui s'appelle « Capitalisme contre capitalisme », dans lequel il décrit, il dit au fond le capitalisme a gagné en 1989 face au communisme, mais ce serait une erreur de penser que le capitalisme est uniforme. Il y a au moins deux formes de capitalisme. Il y a le capitalisme financier anglo-américain qui triomphe à l'époque de Reagan et qui est aligné sur les thèses de Friedman disant finalement la responsabilité sociale de l'entreprise ça n'est que de faire des profits parce qu'au fond la justice sociale ça n'existe pas vraiment et c'est le marché qui va allouer de la manière la plus optimale les ressources et le bien-être collectif. Et puis il y a une autre version du capitalisme qui appelle le capitalisme rhénan, mais il dit le capitalisme japonais s'en rapproche un peu. C'est plutôt un capitalisme des parties prenantes, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas une commodity, c'est une community, une communauté. Et cette communauté, elle est au fond le rassemblement de parties prenantes. Donc il y a bien sûr les actionnaires, évidemment, mais il y a aussi les salariés, les cadres, il y a aussi les consommateurs, il y a aussi les citoyens, et ils ont tous, en quelque sorte, leur mot à dire. Et c'est un capitalisme qui est, du coup, qui, donc avec une gouvernance où les salariés ont une place dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance. On le voit en Allemagne. Je veux dire, on dit souvent, en France, on adore dire l'Allemagne, pays ultralibéral. Enfin, l'Allemagne, c'est quand même un pays qui a un droit des sociétés qui fait beaucoup plus de place aux salariés et qui fait beaucoup plus de place à la codécision, à la co-responsabilité, à la négociation, etc. Ce qui diminue le nombre de conflits aussi. Et c'est un capitalisme, pour terminer, qui est tourné sur le long terme, avec un actionnariat mieux territorialisé, plus ancré dans le territoire. Donc y a, c'est aussi parce que c'est un Mittelstand de PME familiale, etc. Mais il y a cette culture, disons, du long terme. Et je pense que le problème du capitalisme français, c'est que en fait, il est un peu passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'il est passé d'un extrême avec un très très large secteur public, y compris après 81, à un système dans lequel... Et d'ailleurs, il y a peut-être un lien de cause à effet, parce qu'une partie du patronat français a été tellement traumatisée par les privatisations de 81 qu'ils n'ont eu de cesse ensuite, dans les années 80-90, d'essayer au maximum d'internationaliser leur actionnariat et de délocaliser leur activité. C'est une thèse que je trouve assez stimulante, qui montre que finalement, entre l'étatisme et le néolibéralisme de type anglo-saxon, il y a des complicités assez inattendues. Et moi, je serais pour qu'on reconstitue vraiment un système de parties prenantes et donc une forme de démocratie d'entreprise qui n'est pas la démocratie politique, bien sûr.
Dominique Régnier.
Moi, j'ai c'est pas quelque chose que je connais. Ma première réaction, c'est que je suppose que c'est implicite dans la question que vous avez posée, monsieur, mais je ne crois pas qu'on puisse parler de démocratie en entreprise. Il me semble que ce n'est pas possible. Ou alors, c'est le mot démocratie qui n'a pas la définition qu'il doit avoir. Donc, ce qu'on veut dire sans doute, c'est associer les salariés de l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise, les associer à la vie de l'entreprise. Ça me paraît absolument indispensable et ça doit se faire par les organisations syndicales qui doivent avoir les moyens de le faire. Et... en revanche, être représenté par des élus qui sont choisis librement, ça peut être ça, je le sens. Mais il y a une espèce de facilité de langage de dire démocratie sociale ou démocratie d'entreprise. Alors, démocratie d'entreprise, c'est encore plus frappant pour moi parce qu'il n'est pas vrai qu'à un moment donné, les salariés vont élire leur PDG ou vont choisir la stratégie de l'entreprise. Ou vont avoir à choisir entre différentes stratégies qui leur seront présentées. Donc c'est une métaphore, mais qui a sa limite. Ça suppose comme condition première d'avoir des entreprises quand même. Et si j'observe l'évolution de l'économie française, s'agissant du secteur industriel... il faut faire attention parce que ça finira par être inexistant. Hein. Donc on aura de la démocratie dans les services, peut-être aussi dans les administrations, mais dans les entreprises qui sont dans l'industrie, il n'y en aura plus parce qu'il n'y a plus d'entreprises. Et aussi dire quand même que je ne crois pas du tout que le capitalisme américain soit subsumable sous la catégorie qui a été... rappeler, c'est-à-dire que la RSE est très très largement née aux États-Unis, dans la mouvance chrétienne d'ailleurs, avec un rôle très important joué par les traditions protestantes, pas seulement, mais un rôle très important. Il y a toute une tradition extrêmement puissante aux États-Unis de patrons politiquement très engagés sur le plan éthique, sur le plan des valeurs, et qui ont bâti des entreprises à partir de ce désir d'associer leur communauté autour de valeurs communes. Donc, il s'est trouvé, bien sûr, un capitalisme financiarisé, mais il y a beaucoup de facettes chez ces entrepreneurs. Et je fais cette remarque, ça pourrait vous apparaître comme peut-être un peu annexe, mais sur nos grandes entreprises françaises, qui ont certainement beaucoup de défauts, elles ont aussi quelques vertus qui relèvent malgré tout du signe de l'intérêt pour la chose publique. Par exemple, le ministère de la Culture n'aurait aucune activité réelle s'il n'y avait pas les entreprises qui donnent de l'argent au ministère de la Culture. C'est-à-dire que le budget qui est alloué au ministère de la Culture permet de couvrir la charge de fonctionnement du ministère de la Culture, mais pas de financer ses actions. Les actions sont financées par les dons d'entreprises. Il y a à peu près 500 à 600 millions d'euros d'entreprises qui sont donnés chaque année au ministère de la Culture et qui permettent au ministère de la Culture d'avoir une action au-delà du fait d'avoir des fonctionnaires pour penser et mener des actions. On voit par ce signe-là, mais parmi l'autre signe, que les entreprises peuvent être très préoccupées. Il y a d'autres exemples, on pourrait les multiplier, par ce qui arrive à leur pays et par le fait d'y mener une... d'y contribuer, en tout cas, dans un sens qui est celui de l'utilité générale. C'est aussi ça qu'il faut arriver à découvrir. Je termine là-dessus, mais moi, je suis frappé parce qu'on est souvent très sensible et à raison aux généralisations. Ça s'applique beaucoup moins quand on généralise à propos des entreprises ou des entrepreneurs. Il y a un ancien président français, Nicolas Sarkozy, qui avait parlé des patrons voyous. Il y a peu de catégories qui accepteraient qu'on les range dans cette catégorie-là. Et donc, c'est aussi ça qui peut être utile au débat et intéressant, de rentrer dans la subtilité des parcours, des projets, des différences. Et on trouve des entrepreneurs et des entreprises de toutes sortes, en France comme ailleurs, avec des niveaux d'engagement qui sont parfois très élevés et dans un sens qui est celui de l'intérêt général, et que c'est donc de la politique.
Merci. Alors, reprenons. Ah, voilà, une main se lève au milieu. Attendez le micro. Il arrive.
Bonjour, merci. Je voudrais juste observer que l'élu n'a pas besoin d'avoir nécessairement une multitude de mandats pour être totalement investi dans sa mission. C'est une observation. Parce que le cumul des mandats ou des personnes ont 3, 4, 5, 6 mandats, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils seraient vraiment efficaces. Je ne vois pas s'ils avaient envie d'être efficaces sur le terrain, ils le feraient même sans avoir 10 mandats. D'autre part, la décumulation des mandats avait pour espoir de faire en sorte que beaucoup d'autres personnes puissent investir dans différentes tâches, ce qui permettrait ou favoriserait la démocratie. Mais malheureusement, le résultat est que on n'a pas atteint ce type d'espérance. Et voilà. Alors, est-ce que l'État a un rôle à jouer dans la syndicalisation? Du moins, on voit qu'il y a une sorte de désaffection. Les syndicats en France ont une très mauvaise image. Et ils n'ont pas envie non plus de syndicaliser. Je suis très heureux d'entendre que de donner une conscience ou une action, du moins, je ne sais pas comment vais-je le formuler, que le syndicat soit de plus en plus citoyen, qu'il aille de plus en plus dans la cité et non pas uniquement dans l'entreprise. Mais on s'aperçoit que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Comment peut-on faire pour impulser ou faire en sorte que le syndicat aille davantage plutôt que de rester uniquement dans la défense d'intérêts catégoriels ou professionnels, puisse aller également dans la cité. Et il y a une masse de chômeurs, évidemment ça décroît aujourd'hui, mais il est arrivé au moment de la société où la masse des chômeurs est importante. Certains syndicats pensent qu'il ne faut pas avoir un syndicat de chômeurs, qu'il appartient aux différentes corporations de réguler leurs propres chômeurs à leur propre intérieur, mais d'autres pensent qu'il faut faire en sorte que les chômeurs puissent s'organiser et investir la cité. Qu'est-ce que vous en pensez? D'autre part, la dernière question, si vous voulez bien.
Merci. Alors. Ah oui. Alors, Jean-Luc.
Plusieurs questions, mais si je peux me permettre un témoignage aussi par rapport à la question qui vient d'être posée sur le cumul des mandats et un témoignage d'élu local. Parce qu'il se trouve que je suis un élu local dans un petit village. Et la loi sur le cumul, l'interdiction du cumul des mandats a eu un effet pervers terrible au niveau local. C'est que le cumul ne se fait plus entre un député et maire, mais il se fait dans des structures qui, dont le fonctionnement est tout sauf démocratique, qu'on appelle des communautés d'agglomération ou autres. Et là, vous avez des présidents d'agglomération ou des vice-présidents qui cumulent la présidence du syndicat des eaux, la présidence du syndicat des forêts, de la chasse, de toutes sortes de mandats locaux qui sont attribués par des voix tout sauf démocratiques et qui sont en plus très bien rétribués. Donc on n'a plus de cumul de mandats national ou vertical, mais alors localement, sans démocratie locale, eh bien, on a des cumulards qui profitent largement du système. Alors, ma question, c'était, pour revenir un peu au début de notre débat sur le procès en légitimité qui est fait à Emmanuel Macron, est-ce que vous ne pensez pas que si ce procès peut avoir lieu, c'est parce qu'il n'existe plus de consensus sur le respect du choix des électeurs ? Qui est le fondement même de la démocratie et du lien social. Hein. Rousseau appelait de ses voeux une religion civile, hein, qui aurait été ce lien qui aurait fait qu'une communauté puisse vivre avec une démocratie représentative. Cette religion civile, c'était en fait l'expression de la volonté générale, identifiée à la loi. Bon. Et il avait, c'est au dernier chapitre du contrat social, il avait un remède très simple pour ceux qui ne respecteraient pas cela, c'était la mort. Ça a donné Robespierre et la terreur. Et donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la religion civile, ou le lien social, pour parler plus comme Durkheim, en France ? Moi, je suis très frappé qu'on n'en trouve plus. Je pose la question à des jeunes étudiants qui, de première ou deuxième année de licence, ils n'ont pas de réponse. Alors, le plus souvent, ceux qui ont une réponse, c'est la laïcité. Bon, mais la laïcité, ça ne fait pas un lien social. Moi, mon sentiment, c'est que le seul lien social qui existe aujourd'hui, c'est l'État-providence. Si on casse l'État-providence, bah, le corps social explose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de... Tu as utilisé le mot de valeur tout à l'heure, de valeur commune à l'ensemble des citoyens français qui fassent que, lorsque le corps électoral s'est exprimé, on respecte le verdict des élections et on ne commence pas à délégitimer celui qui a été élu.
Voilà des questions de fond.
Madame aussi a des...
Alors, pardon, attendez un instant. On va peut-être prendre la série de questions parce qu'il y a suffisamment de quoi faire là maintenant et on vous donnera la parole tout à l'heure. Alors allez-y.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que la légitimité de l'élection d'Emmanuel Macron soit contestée. Ça ne me frappe pas. On n'est pas comme aux États-Unis où il y a des gens qui ont envahi le Capitole en disant c'est un coup d'État, Biden n'aurait pas dû être élu. On n'a même pas passé des semaines à recompter les voix comme on avait fait en Floride. Non, il y a des gens qui disent effectivement il est mal élu. Ou des gens qui disent il est élu sans adhésion. Il faudrait explorer ça. Moi, je pense qu'il y a un socle d'adhésion qui est fort. Mais je crois qu'on a quand même... Il ne faut pas se voir plus noir que nous ne sommes. C'est-à-dire, je crois qu'on a quand même encore la chance de vivre dans un pays, contrairement à un système comme les États-Unis, qui est vraiment au bord du gouffre, hein, de ce point de vue-là, où l'écrasante majorité de la population reconnaît la légitimité du système démocratique, de la procédure électorale, etc. Après qu'il y ait... Il y a de l'hostilité, de l'agressivité, de la détestation, etc. Ça, on pourrait essayer d'expliquer pourquoi, et ça s'explique par, à mon avis, beaucoup de choses, mais je pense que la légitimité, elle est là, quand même. Après, sur la reconstruction du lien social, moi, j'ai tendance à dire que la question, c'est la co-responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je suis un disciple de l'école solidariste, notamment de Léon Bourgeois, qui disait, quand on appartient à un contrat social, en fait, on est tous endettés les uns vis-à-vis des autres. Et le vaccin de Pasteur avait joué un rôle très important dans l'élaboration de cette sociologie, y compris sociologie durkheimienne, parce qu'en fait, il n'y a pas de liberté en société sans responsabilité. La liberté implique la responsabilité. C'est pour ça qu'il fallait se vacciner au moment où le Covid frappait fort. On se vaccinait pas pour son bien-être. On se vaccinait quand on était jeune, par exemple, pour protéger la société. Et le fait qu'il y ait eu autant, effectivement, de contestations de la science, d'anti-vax, etc., montre que nous sommes entrés dans ce que j'appelle, moi, des sociétés de marché à irresponsabilité illimitée. C'est-à-dire où, en fait, les gens croient que la liberté est absolue, qu'elle est radicalement individuelle, et où le citoyen s'est effacé complètement sous la figure du consommateur. Donc, tout le travail qu'il faut faire, c'est de reconstruire, en fait, cette co-responsabilité dans la société. À la fois par les médiations qui sont celles des syndicats, des associations, etc. Mais il faut qu'on développe aussi, moi je ne suis pas un turiféren de la loi et de la seule loi, la culture des engagements réciproques. Il faut qu'on soit plus contractuel, plus scandinave, plus allemand. Et alors quand je dis ça, souvent dans les conférences, il y a des gens qui me disent « mais c'est pas notre culture ». Parce qu'il y aurait un fatalisme comme ça de la culture française qui serait celle du conflit, du romantisme politique. Non, moi je pense qu'on peut construire, reconstruire un lien social à l'aune de ces engagements réciproques et de cette culture du contrat. Et c'est le seul moyen pour rétablir la paix civile et la paix sociale.
Juste, monsieur, parce que tout à l'heure, on disait on va prendre plusieurs questions, mais vous en avez posé toute une rafale. Donc on a eu plusieurs questions. Et je vous réponds rapidement, c'est cavalier, hein, mais je ne peux pas prendre trop de temps, mais sur l'intéressement, c'est fondamental. Ça existe d'ailleurs, comme vous le savez, hein, mais c'est évidemment fondamental. Les syndicats, moi je dirais, pour répondre à votre question, à votre invitation, comme ça, là, je dirais qu'il faut conditionner davantage une partie de leurs ressources à leur niveau d'engagement dans la société. Aujourd'hui, au fond, on peut faire vivre une structure partisane ou syndicale sans s'occuper beaucoup des salariés ou des électeurs. C'est une bizarrerie. Et sur le cumul des mandats, je comprends votre intervention. J'ajoute les remarques au passage et le témoignage de Jean-Luc Poutier. Mais on peut arriver à définir on peut éviter de tomber dans un tout ou rien. C'est-à-dire que, comme le dit David Jay tout à l'heure, être maire de Lyon et sénateur, parce que le cas était sénateur, être maire de Lyon et sénateur, ça paraît quand même bizarre. Mais si vous êtes maire d'une ville de 25 000 habitants et que vous êtes parlementaire, c'est tout bénéfice pour le Parlement. C'est tout bénéfice pour le Parlement, mais vraiment, ce n'est pas du tout les mêmes parlementaires.
Et pour la ville.
Et pour la ville. Alors pour le Parlement, c'est plus important parce que voilà, vous avez une assemblée d'élus dont une bonne partie connaît. Quand on discutait avec des politiques qui étaient maires d'une ville de ce type-là, ou de villes plus petites bien sûr, ils ont une connaissance des problèmes de cantines scolaires, des problèmes d'aménagement, etc., qui les inspire et qui les amène à des remarques très utiles lorsqu'il s'agit d'élaborer une loi, même à caractère très général. Et c'est une culture politique extrêmement précieuse et qui ne s'acquiert pas autrement. Donc ça serait... Après, il faut effectivement éviter les excès dont parlait Jean-Luc Poutier. Il y a quand même une barrière qui est mise aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on plafonne quand même, hein, le cumul des indemnités, donc c'est tout de même pas sans effet, mais il est certain que ces instances non élues dans les intercommunalités et autres posent un problème à l'exigence démocratique. Et puis sur la question de la valeur, c'est une question redoutable. Moi, comme ce n'est pas enregistré, je peux essayer de répondre quelque chose, mais c'est bien difficile, évidemment. Alors, j'esquisserai, je ne suis pas capable de répondre à cette question, hein, mais j'esquisserai un élément, hein, donc avec mille réserves. Mais ce n'est pas un jeu de mots du tout, mais valeur a plusieurs sens. Et je crois qu'il y a un lien dans ce que disait tout à l'heure Jean-Luc Poutier, c'est-à-dire la seule valeur que nous avons, c'est le contrat social, l'État-providence, plus précisément, et que si l'État-providence venait à collapser, par exemple parce que les taux d'intérêt remonteraient et que nous serions par hypothèse surendettés, mais n'imaginons pas le pire, eh bien on se trouverait dans un pays probablement par terre. Un élément, sans doute, est de... renouer le contact, et ça rejoint d'ailleurs ce que disait David à sa manière, renouer le contact entre ce que je suis comme citoyen, ce à quoi j'ai accès, ma contribution, et la valeur économique de tout cela, la valeur matérielle. Repasser par la valeur matérielle pour pour saisir le sens de ce que fait la communauté pour moi. Nous manquons de reconnaissance. C'est inouï, ça. Ça me frappe beaucoup. Et je suis très malheureux que, lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron ait supprimé la taxe d'habitation. Car nous avons désormais un pays dans lequel un très grand nombre, une majorité de nos concitoyens, ne sont pas assujettis à la taxe d'habitation, pour des raisons de revenus, mais qui peut ne pas contribuer quand même à ces services publics fondamentaux ? Quelle est cette idée qu'on pourrait ne contribuer en rien ? Que 57% des ménages ne paient pas l'impôt sur le revenu, que vous avez donc une proportion très majoritaire désormais de ménages qui ne paient pas d'impôt direct. Alors il y a d'autres impôts, mais enfin, malgré tout, c'est symptomatique, parce que lorsque vous payez l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, vous demandez des comptes sur l'usage qui est fait de votre contribution. Vous êtes dans une relation civique. La relation fiscale, elle est civique. Eh bien, je dirais que nous nous sommes engagés sur un chemin de gratuité qui ne correspond, on le sait tous, à aucune réalité. La réalité de ce monde, c'est la rareté des choses. Nous ne faisons pas signe en ce sens, et dès lors, ce que nous recevons n'est pas le signe d'une société qui s'est organisée pour nous permettre de recevoir et devant laquelle nous devons exprimer la reconnaissance, mais une sorte de mécanisme naturel, un peu comme l'air que nous respirons. Et il y a quelque chose à reconstruire, là. Mais je ne veux pas terminer, pour ma part, par une note de pessimisme, mais je pense que les politiques qui vont se trouver devant cette nécessité de reconstruire le sentiment, la perception réelle du coût et non pas de la gratuité, et cultiver la reconnaissance et non pas l'ingratitude, vont se demander quelle réforme des institutions il faut faire pour y arriver plutôt que d'essayer de le faire.
Voilà. Voilà, merci. On a encore le temps peut-être pour une question, madame qui... Voilà. Attendez le micro, voilà.
Justement, moi je pense quand même qu'il y a... Je voulais savoir si vous ne pensez pas quand même qu'il faudrait former un peu le citoyen. Parce que dans les abstentions et dans les gens qui ne connaissent pas le fonctionnement de notre pays, qu'est-ce que c'est que la démocratie, à quoi sert de payer un impôt, etc. Et ça, c'est fondamental quand même dans la formation d'un citoyen. Tout ce qu'on vient de dire, il faut que ce soit compris par tout le monde, par tous les citoyens. Or, vous avez énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est que, pratiquement, à quoi sert un député, à quoi sert un maire, à quoi sert un impôt. Ça me choque que dans toutes les études qui sont faites par rapport à, justement, les études sur l'abstention, etc., on ne parle pas de la formation du citoyen. Bon, autrefois, on avait quand même, dans notre génération, on a eu de l'instruction civique. Hein,
bon. Alors, la formation des citoyens.
Alors, bon,
comment les former en dehors de Sciences Po ?
Je pense que c'est quand même un des éléments, peut-être pas déterminant, mais que c'est un des éléments fondamentaux. Il faut intéresser les gens à la façon dont ils vivent et comment vit notre société. La responsabilité et le lien social, il ne peut être vécu que si les gens connaissent. Et si les gens, on leur a montré du doigt ce que c'est que la responsabilité et à quoi sert et comment fonctionne un pays comment fonctionne une famille, etc. Dans toutes les études et dans tous les débats qui sont faits à la télévision, on ne parle jamais de ça. Et d'ailleurs, j'ai aussi une remarque à faire, c'est que dans les médias, il y a de moins en moins de choses qui disent « allez voter ». Et ça sert à ça de voter, etc. On a vu quelques choses, mais ça, c'est terminé. Autrefois, il y avait quand même... Enfin, je ne suis pas du tout passéiste, hein, mais je pense quand même que là, depuis un certain
nombre... Voilà, oui, on va peut-être s'arrêter, excusez-moi. Vous avez une question très claire.
Hein, donc, mais comme vous avez ici des enseignants et des journalistes, on ne va pas être en désaccord avec vous. Enfin, moi, je ne sais pas.
Oui, absolument.
Non,
publication.
La question pour les médias et les réels. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, je me souviens plus, on a eu en même temps les élections départementales et les élections régionales.
Ouais, l'année dernière.
Pour les médias, c'était extrêmement compliqué de faire comprendre à nos lecteurs ce qu'est un... Parce qu'on a fait des tas de papiers, nous, à la Croix, on a fait des tas de papiers sur à quoi sert un conseiller départemental, un conseiller régional. Voilà,
vous êtes parmi les rares à l'avoir fait. Il y a beaucoup de médias parisiens qui s'intéressent
plein.
Beaucoup à ça, pour une
ouais.
raison très simple, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'élection départementale à Paris. C'est
frappant. Absolument. Mais moi j'avais été interrogé après, il y avait une mission parlementaire sur l'abstention et donc on y était allé et on avait été interrogé, on était quelques journalistes, par les députés sur voilà, ce qu'on peut apporter, et exactement la question que vous avez posée. Comment on peut sensibiliser, ce qu'on constate quand même, c'est que ces papiers, ils n'intéressent pas les lecteurs. Donc on en fait parce qu'on considère que voilà, ça fait partie de notre... Alors après il y a la question de l'instruction civique qui existe encore, hein, qui existe
oui,
encore.
Ça existe encore. On explique ça à l'école, mais comme vous le savez et comment le reprocher, on enseigne. Ça dépend lesquels, les professeurs de philosophie, les professeurs d'histoire, les professeurs. Ça dépend, les professeurs d'économie aussi, ça dépend lesquels. Non, mais simplement, je veux pas tomber dans les yaka faucons, mais on demande à l'école beaucoup de choses, comme vous le savez. Et en général, dès qu'il y a une difficulté, on dit qu'il va falloir demander aux enseignants de l'expliquer aux élèves. Et on ajoute des éléments, des modules, qui sont tous légitimes. Quand vous les prenez un par un, y compris sur le savoir-être, comment se comporter, des problèmes, des questions d'hygiène, etc. Comment dire que ce n'est pas la prévention, comment dire que ce n'est pas nécessaire. C'est de moins en moins enseigné dans les familles, en fonction, là, il y a des grandes différences sociales. Non, il y a des différences sociales, bon, de précarisation, etc. Il y a plein de choses tout a tellement été bouleversé. Je ne crois pas que ça se fasse plus à l'école. Ça ne se fait plus comme autrefois, c'est sûr. Mais probablement que c'est plutôt une bonne chose. Parce que les gens, on a changé tous. Mais c'est une clé. Moi, je suis prof. Donc moi, je trouve que c'est la clé. Hein, c'est une des clés. Voilà. Et les journalistes le font. Nous, on le fait. Mais vous voyez, quand j'entends un journaliste me dire... Quand on explique les scrutins et le pouvoir des conseils régionaux, ça n'intéresse pas forcément beaucoup nos électeurs. Je me dis, et ce sont donc ces électeurs qui vont aller aux réunions et aux délibérations, le soir après le travail. Je ne crois pas. Hein, cet élément-là me frappe.
Voilà, je vais laisser maintenant Jean-Luc Poutier le soin de terminer cette soirée. On vous voilà. Désolé, mais on a dépassé l'heure largement.
Simplement deux rappels. Le premier, c'est que notre prochain rendez-vous est fixé au 31 mai. Donc ce ne sera pas en juin. Hein. On l'a avancé un petit peu pour anticiper sur des départs en vacances anticipés. Voilà. Donc ce sera le mardi 31. Et d'autre part, vous rappelez que vous avez des urnes à la sortie, mais qui ne sont pas destinées à des bulletins de vote, mais à votre contribution à l'organisation de ces soirées. Voilà, merci beaucoup.